Oui.
La une ce midi, c'est le combat qui commence sur le budget de l'État pour les Outre-mer. Cette course aussi qui fait polémique au sein d'Air Tahiti-Nui. Et on parlera aussi de ce projet à Touboué. Des classes ont entrepris de sauver les plages en plantant des arbres. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabréo. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Et on commence en parlant finance. Le budget outre-mer est en souffrance.
Oui, l'Assemblée nationale a commencé hier l'examen du projet de loi de finances pour 2026 et tous les députés ultramarins sont contre. Des crédits de paiement en baisse de 20 milliards de francs, des autorisations d'engagement en baisse de plus de 71 milliards et une baisse aussi des crédits de défiscalisation qui risquent de faire très mal. Les parlementaires dénoncent l'abandon du principe de l'égalité réelle entre les territoires français. Et d'ailleurs, Moerani Frébo a déposé ce matin en commission des finances un amendement adopté par un grand nombre de députés présents, tous bords politiques confondus. Un amendement qui vise à maintenir les dispositifs fiscaux pour l'ensemble des Outre-mer. Et hier, sur Polynésie la Première, Moetei Broverson a lui aussi exprimé son désaccord. Le coup de rabot à la défiscalisation pourrait signifier une réduction de 30% de l'enveloppe disponible, ce qui nuira en particulier au tourisme haut de gamme et au secteur aérien. Et si le président du pays affirmait que la Polynésie est injustement punie alors qu'elle était une bonne élève en matière de défiscalisation, difficile de savoir si c'est vraiment le cas. Selon nos informations, un rapport de Bercy en préparation ne serait pas tout à fait du même avis. Voilà, l'examen du chapitre Outre-mer en séance est prévu pour le 9 novembre à l'Assemblée nationale.
Cette polémique maintenant au sein de la compagnie ATN.
Et pour une fois, il ne s'agit pas de route qu'on arrête ou de nouveaux avions ou même d'une nouvelle direction. Rien de tout ça. Cette fois, on parle d'une course à pied, la ATN Urban Run, l'édition 2025 est lancée. On peut même depuis ce matin s'inscrire sur l'une des trois épreuves, un 5 km, un 10 km ou un run and bike pour les enfants. Mais voilà, ce n'est pas le club habituel qui l'organise, Caroline Perdry.
Et non, d'habitude, c'était ATN Running qui organisait cette course. Son président d'alors, Dan Pihate, l'avait même cofondée avec une ancienne collègue. Mais justement, il ne veut pas lâcher son bébé. Dan Pihate n'est plus président d'ATN Running depuis le mois de mars, mais tant pis. Il organisera quand même l'ATN Urban Run. Ça ne plaît pas beaucoup à son ancien club, qui a appris un peu par hasard l'organisation de la course pour le 22 novembre. Tout y était, le nom, les sponsors, une belle affiche pour un événement où rien n'était clair, où la situation pouvait porter à confusion, puisque cette fois, ATN Running n'a rien à voir avec la ATN Urban Run. Le club l'a fait savoir sur les réseaux sociaux et c'est aussi la Fédération d'athlétisme qui a précisé ne pas soutenir l'événement.
Bref, tout le monde est monté au créneau et c'est aussi chez Air Tahiti-Nui qu'il y a eu des discussions.
Oui, car la course a gardé exactement le même nom que lors des éditions précédentes, laissant donc penser que la compagnie continue à soutenir l'événement et surtout à apporter un billet d'avion à gagner. Chez ATN, on précise que le nom, Air Tahiti-Nui, leur appartient. Pas question donc de l'utiliser à tort et à travers. Il était tout de même question de sponsoriser l'événement, tant pis pour les maladresses de Dan Pihate. Mais la polémique enfle et la compagnie se pose désormais la question de continuer ou non à soutenir cette course.
Voilà, en attendant, les inscriptions ont bel et bien été ouvertes ce matin pour la ATN Urban Run, une course prévue le 22 novembre prochain.
Et puis deux jours avant, ce sera le 20 novembre, première année que cette date est fériée.
Et oui, pour fêter Matari, Niya ou la saison de l'abondance. Et pour cette première édition, le pays organise deux événements phares. Une première journée le 20 novembre avec des danses, un concert, un bal et des feux d'artifice. Et puis aussi un défilé de chars fleuris. On écoute Moanaura Teheyura en charge de l'organisation.
On n'invente rien pour faire la parade donc, culturelle au niveau de Papeete parce que auparavant il y a déjà eu des défilés de chars fleuris. Donc on s'inspire du passé, on s'inspire de nos anciens et c'est important pour célébrer. Alors nous célébrons avec la joie, avec le bonheur et Matar Inia, l'abondance, c'est ça. C'est se fêter d'abord en tant que peuple et se réjouir de ce que l'on est, se réjouir de cette abondance. Abondance évidemment sur le plan symbolique, abondance sur le plan agriculture, etc.
Abondance de fruits, de fleurs, les poissons qui reviennent, autant de thèmes qui serviront d'inspiration aux associations pour faire ces chars fleuris. Les agriculteurs seront là aussi, promet Moanaura Teheyura. Il nous réserve d'ailleurs même une surprise. Voilà, il faudra venir en famille pour voir tout ça. Et puis il y aura un concert avec Nohorei, auteur d'ailleurs d'une chanson pour célébrer Matari Inia, Sisasue et le Royal Band. Et deuxième journée de célébration prévue le 22 novembre. Ce sera le samedi suivant le jour férié et ça se passera à Tautira. Le programme avec la directrice générale de Tahiti Tourisme, Veyere Lissan.
C'est une journée très riche aussi, de 9h du matin à 21h. Donc avec plusieurs moments, plusieurs temps forts en fait, hein, parce que évidemment des ateliers culturels, mais aussi la participation du Conservatoire des Arts de Polynésie Française avec différents spectacles. Et puis un grand matéiti partagé au déjeuner, dont l'après-midi ou plus en fin de journée, une cérémonie du Hava. Et en début de soirée, on aura même une observation commentée des étoiles avant de finir sur un concert.
Voilà, tout le planning et les informations sont disponibles sur un site internet matarii.pf.
On part à Riquitéa maintenant, où le léopard des mers est au centre d'un débat, agir ou laisser faire la nature.
Oui, l'association Matato Hora veut agir alors que la DIREN a déjà dit qu'elle laisserait faire la nature. Dans un long poste, l'association défend sa position et explique que c'est au pays de mandater un vétérinaire et un biologiste, mais que son choix est d'occulter les examens médicaux mais aussi toute connaissance sur cet animal et son espèce. La DIREN a répondu expliquant que ce n'est pas si simple, l'animal est une espèce extérieure à notre écosystème, nous n'avons pas de laboratoire spécialisé ni de centre de soins adapté. Intervenir pourrait mettre tout le monde en danger, y compris l'animal. La direction de l'environnement assure s'être entourée d'experts, vétérinaires et associations pour assurer un suivi du léopard des mers et protéger la population.
On reste dans les îles, mais cette fois direction les Australes.
À Toubouei, plus précisément, où une école est en train de mener un projet pour sauver les plages de l'île. Une centaine d'élèves du CP au CM2 sont sur le terrain pour recenser les plantes endémiques du littoral, parler avec les Matahiapo et replanter sur la côte les espèces choisies. C'est Tihoti Tanepao, professeur des écoles et président de l'association Rawi Nui Note Tuhape, qui a lancé ce projet de planter pour sauver les plages. C'est d'ailleurs un des candidats au concours Toarif 2025.
Donc dans un premier temps, il y aura la sortie pour identifier les espèces, pour voir un peu l'effet de l'érosion sur la plage devant l'école. Ensuite, on aura cet échange avec les Matahiapo pour avoir au fait l'utilisation qu'on peut en faire dans la tradition polynésienne, comme des raketi, dans l'artisanat ou des choses comme ça. Et après, on va identifier les espèces qui peuvent nous aider à ralentir l'effet de l'érosion. On va essayer de les mettre en pépinière et après de les réimplanter sur les plages qui ont été touchées.
Voilà, cette idée est née d'un constat alarmant. Les plages situées à l'est de Toubouei n'existent presque plus, alors qu'avant, des courses de chevaux y étaient organisées. Pour ce professeur, les plantes peuvent protéger les plages de l'érosion.
On pense à des arbustes qui supportent bien le bord de plage, hein, comme ce qu'on appelle chez nous le napata. C'est un arbuste à fleurs blanches et qui veut, dans la tradition polynésienne, est utilisé aussi comme collier pour soigner tout ce qui est conjonctivite ou brûlure du soleil, hein, au niveau des yeux. Hein. Il y a cette plante-là, on a ce qu'on appelle tarinou. Voilà. On a un peu ces espèces déjà, maintenant on va voir ce qui est possible de mettre en pépinière et qu'on pourra réimplanter sur site.
Le projet s'inspire du programme Fa'aturat et Tahatei, un consortium de 5 partenaires qui vise à restaurer la végétation indigène des littoraux polynésiens sur Tahiti, Morea et Tetiaroa. Ils vont accompagner le professeur de Toubouei sur son projet. Les premières actions débuteront dès la fin de cette semaine et les plantations devraient, elles, commencer d'ici la fin de l'année.
Et puis du cinéma pour terminer. On vous en a déjà parlé hier dans ce journal. Une mini-série polynésienne est en tournage.
Voilà 9 personnes qui se réveillent sans aucun souvenir sur une île isolée après une mystérieuse brume noire. C'est donc le point de départ de Oro, cette nouvelle mini-série polynésienne, une histoire imaginée par Franck Philippon. C'est lors d'un atelier au Salon du Livre qu'il a rencontré Toari Puira et Manutea Garcia et il a tellement aimé leur univers qu'il les a sollicités pour cette série. Toari Puira dévoile un peu plus l'histoire. S'il parle doucement, c'est que Nanihi Laroche l'a interviewé en plein tournage.
C'est 9 personnes qui vont militer contre les forages, en fait, au Tuamotu. Et malheureusement, ils vont jamais y arriver parce qu'il y a une brume noire qui va apparaître. Et du coup, ils vont se réveiller sur une plage sans aucun souvenir de ce qui s'est réellement passé. Et donc, ils sont sur une île. Et sur cette île, il se passe des choses bizarres et très liées à la culture polynésienne. Et déjà, les personnages sont des archétypes polynésiens. Donc, on a vraiment essayé de faire en sorte que toute la Polynésie arrive à se reconnaître.
Pour le producteur Franck Philippon, Oro se situe entre la série américaine de 2004, Lost, et la série française de 2012, Les Revenants. Mais c'est plus que simplement du fantastique. On l'écoute.
L'idée d'une série fantastique, mais en même temps, bon, à des choses étranges, mais moins étranges que d'une certaine manière sur Lost, même si c'est des choses surnaturelles. Mais le but de ces phénomènes, c'est surtout de renvoyer chacun des personnages à leur conflit intime, et à leur culpabilité, et à leur colère, et à tout ce qui les habite et ce qui les hante. Et l'île va les pousser au bout d'eux-mêmes, au sein d'eux-mêmes, entre eux-mêmes. Et évidemment, ça ça va pas être facile.
Voilà, casting majoritairement local avec 90% de l'équipe, techniciens comme comédiens qui sont polynésiens. Et justement, un guichet unique vient d'ouvrir pour accueillir et faciliter les tournages en Polynésie. La Tahiti Film Commission, qui est rattachée à la DGEN, selon le président de la Fédération Polynésienne de l'Audiovisuel et du Cinéma, Teiki Nanei, le secteur est en plein essor. Et pour voir Oro, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine. La mini-série doit être diffusée sur le réseau de France Télévisions, dont Polynésie la première. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur Radio.